Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions sont des passivantes, au Café Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Au Café Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, dans le site de
En République démocratique du Congo, bon nombre de commerçants, particulièrement dans le petit et moyen commerce, se sont permis d'ajouter la TVA sur le prix des produits contenant déjà dans leur structure l'ICA. Conséquence, on assiste à une hausse sensible de tous les produits de consommation sur le marché. Quelles sont les sanctions légales que courent les opérateurs économiques qui appliquent mal les nouvelles directives? Professeur Mathias Boabouawa-Kayembe, encore une fois bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert en droit fiscal. La première question est de savoir qu'est-ce qu'on entend par double imposition aux consommateurs.
Double imposition aux consommateurs, à mon avis, c'est le fait de réclamer aux consommateurs le même impôt ou bien un impôt de même nature, de réclamer deux fois. Donc, impliquer deux fois dans la structure du prix le même impôt. Dans le cas d'espèce, il s'agit de l'ICA et la TVA.
Et quelle différence vous faites entre les deux impôts?
Bon, les deux impôts sont des impôts presque de même nature. Il s'agit des impôts sur la consommation, c'est-à-dire des impôts, déjà la taxe sur la valeur ajoutée est appelée taxe, mais en réalité, il s'agit d'un impôt. L'ICA est également un impôt sur la consommation, c'est-à-dire lorsque vous d'acheter quelque chose au marché, que ce soit au grand marché, ou bien que ce soit dans un restaurant, dans un bar, ou bien lorsque vous importez le produit à la douane, vous payez cet impôt-là. Donc c'est un impôt sur les achats ou bien sur les ventes. Alors la différence entre l'ICA et la TVA est que l'ICA, en fait, c'est un impôt sur la consommation, mais qui est assis sur la valeur ajoutée, également sur la valeur, disons, l'outil de production. Si vous prenez, par exemple, prenons un exemple concret. Un exemple simple, vous avez la poule et les œufs de la poule. L'ICA serait appliqué et sur la poule et sur les œufs de la poule. Alors que la TVA est appliquée sur les œufs qui sont produits par
sur la poule.
Voilà. On préserve l'outil de production et on assujettit la valeur ajoutée à cet outil de production.
Alors, quel est le pourcentage de l'ICA et la TVA?
Bon, l'ICA avait l'avantage d'avoir plusieurs pourcentages. Par exemple, il avait des taux de 3% pour des produits de grande consommation ou bien des biens industriels. Le taux était de 3%. Et puis, il y avait des taux de 6%, il y avait des taux de 9%. Par exemple, pour les activités bancaires, c'était 9%. Et puis, il y avait même des taux de 30%. Mais la TVA est dotée d'un taux unique de 16%, aussi bien pour les produits de grande consommation que pour les autres produits, notamment les activités bancaires et autres. Alors, il y a une question qui est venue de Kananga qui demande qu'on puisse annuler
la TVA et commencer d'abord par augmenter les salaires des fonctionnaires de l'État et autres.
Bon, je crois qu'on est là dans un cercle vicieux. Parce que pour augmenter les salaires des agents de l'État, il faut disposer des ressources budgétaires, il faut disposer de l'argent. L'argent provient des impôts, et sans les impôts, on ne peut pas avoir de l'argent pour bien payer les fonctionnaires. Donc dire qu'on doit annuler la TVA, je ne pense pas. Mais je crois que ce qu'on devrait faire, si je veux parler en tant que professeur, pas en tant que DG d'un API, ce qu'on devait faire, c'est peut-être ne pas positionner l'application de la TVA au mois de janvier. Parce que c'était moi déjà d'habitude où les prix augmentent, parce que les gens ont fêté, n'ont plus d'argent, etc. Et c'était moi assez sensible, disons, socialement, au mois de janvier. On devait peut-être appliquer ces taxes ou cet impôt au mois de février ou mars, par exemple.
Alors, il y a Félicien qui a juste, il dit qu'il fallait d'abord commencer, avant de lancer la TVA, il fallait commencer par une sensibilisation, même prendre une année de sensibilisation afin que les gens comprennent comment on va fonctionner exactement cette taxe.
C'est justement, il fallait sensibiliser. Il fallait sensibiliser sans pas être fait, et puis la sensibilisation qui a été faite, j'ai l'impression qu'elle est faite par le fisc, par les agents du fisc. Déjà, le courant passe difficilement entre le fisc et la population, c'est vrai. Donc, le message risque de ne pas passer. On aurait dû prendre beaucoup de temps pour le faire. Mm-hmm. Mais je crois qu'on est toujours dans le timing pour continuer à expliquer.
Mm-hmm.
Et puis, je pense que on pouvait aller par étapes, on pouvait aller d'une manière séquentielle.
Alors, professeur, un opérateur économique qui tombe sous le coup de la double imposition au consommateur, quelles sont les sanctions prévues par la loi?
Reprends la question.
Un opérateur économique qui impose une double taxation au consommateur, qu'est-ce que la loi prévoit comme sanction à ce moment-là?
Non, il y a plusieurs sanctions qui sont prévues par la loi.
Hein. Lesquelles?
Par exemple, l'absence de déclaration est sanctionnée d'une amende de 500 000 francs congolais. Par exemple, l'absence de la facture est sanctionnée par le double de la valeur de l'impôt qu'on devait payer.
Mm-hmm.
Etc.
On a appris même à Kinshasa, il y a certains supermarchés qui ont été scellés.
Bon, mais je crois que c'est en tant que responsable de l'agence d'investissement qui est en charge de la question du climat des affaires, moi je proposerais qu'on puisse y aller, disons, un peu calmement, qu'on ne puisse pas passer à des sanctions, de sceller les magasins ou les supermarchés, parce que dans ces supermarchés, il y a quand même des Congolais qui travaillent. Et quand on scelle comme ça, c'est-à-dire qu'on met ces Congolais à la porte. Je crois que comme les gens n'ont pas compris de quoi il s'agit exactement, ils n'ont pas compris c'est quoi la valeur ajoutée et tout ça, et puis le passage d'une CIA.
Oui, si, peut-être qu'il y a certains commerçants heureux qui profitent de la confusion pour augmenter leurs bénéfices.
Mais en fait, ce qu'il fallait faire, c'est leur donner des cas pratiques. Voilà, vous imposez. Il fallait faire des cas pratiques avec eux. Vous vendez telle marchandise à tel prix, voilà comment vous calculez la valeur ajoutée, voilà comment vous calculez l'impôt, etc. Donc, je crois que ce sont des partenaires, les opérateurs économiques. Et dans un premier temps, il faut mettre un temps pour expliquer, discuter, etc. Et quand les gens ont bien compris, on peut passer maintenant à des sanctions. À mon avis, c'est un peu prématuré.
C'est un peu prématuré. En cas de double imposition, est-ce qu'on peut aller juste à retirer le numéro de registre de commerce à un opérateur économique?
Ce n'est pas nécessairement en cas de double imposition. Parce que on a
expliqué, de sanctions graves.
On a expliqué ici que la double imposition peut être due, non pas à l'opérateur économique, mais peut être due à l'État lui-même. Parce que voilà, l'État a appliqué l'ICA en décembre et puis en janvier. Ça se cumule. Donc l'opérateur économique peut se retrouver avec les deux impôts dans sa marchandise. Mais je crois que les sanctions pourraient venir en cas de non-déclaration, en cas de subtilisation de la TVA calculée au client, mais on ne la paye pas
à l'État,
etc. Mm-hmm. Il y a donc des cas de figure qui pourraient entraîner des sanctions et qui montrent la non-collaboration avec les services du fisc.
Voilà, nous allons revenir à ça, à ces différentes sanctions. Vous voulez participer? Composez le 081-890-63-94.
Magazine de Nations Unies. Tout sur les défaillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capitale.
Quelles sont les dispositions légales en cas de double imposition aux consommateurs? Alain Chikwangiav nous appelle de Kolwezi dans la province du Katanga. Bonjour.
Ah, bonjour, je dis Kachamara et bonjour à tous les auditeurs de la radio Kapi.
On vous écoute, Alain.
En fait, je voudrais juste poser un peu quelques petites questions, justement en rapport avec la TVA.
Oui.
La première question que j'aimerais poser, c'est de savoir, aujourd'hui nous savons que la TVA... Allô?
Oui, allez-y.
La TVA est appliquée dans notre pays. Est-ce qu'on peut nous assurer que tout l'argent qui sera collecté sera conduit dans les trésors publics pendant que c'est dans notre pays que la corruption est institutionnalisée. Ça, c'est la première question. La deuxième question, je pose également à l'invité la question de savoir que les moyens semblent être opportuns pour qu'on puisse appliquer la TVA dans notre pays. Et la troisième question, j'aimerais un petit peu savoir, normalement, les gouvernements congolais, c'est la question que je pose bien sûr à l'invité, est-ce que le gouvernement congolais...
Dommage Alain, il y a sûrement un problème de liaison, une perturbation de liaison téléphonique. Blaise Bateo est à Kananga, bonjour.
Bonjour papa.
On vous écoute.
Oui, j'ai pas de petites questions.
Oui Blaise.
La première, j'aimerais savoir si la culture fiscale joue-t-elle un rôle prépondérant dans la maximisation des recettes.
Oui.
La deuxième, que signifie la culture fiscale?
Oui.
Et la troisième, j'aimerais savoir la différence entre contribuable et redevable.
Oui.
Et la quatrième, j'aimerais savoir quel est le rôle de CPM.
Le rôle de
CPM.
De CPM, oui.
Voilà, CPM, c'est quoi?
Contribution professionnelle minimum.
Personnel minimum.
Personnel minimum, merci.
Merci Blaise, professeur Boba.
Oui, il y a Alain qui demande est-ce qu'on est certain maintenant que l'argent collecté au titre de la TVA va être fondé dans le trésor public. Je crois que c'est ça la question majeure dans notre pays. On peut prendre des lois, mais il faut qu'il y ait une administration fiscale bien organisée pour appliquer ces lois-là.
Mm-hmm.
Si on a connu un échec avec la l'ICA, qu'est-ce qui montre qu'on aura un succès avec la TVA? Moi, en tout cas, j'ai vu comment ça s'appliquait dans certains pays, notamment à l'île Maurice. J'ai vu que ils ont un système de versement automatique de la TVA au trésor public. Donc, quand vous allez dans un supermarché, vous payez, au moment où vous payez, la TVA est dirigée directement dans, il y a un logiciel qui permet de faire entrer la TVA directement au compte du trésor, sans que ça ne dépende du propriétaire du magasin et sans que ça ne dépende des agents de fisc. Je crois que le tel système appliqué dans notre pays permettrait de pouvoir avoir du succès dans ce domaine. Mais je suis quand même un peu réservé par rapport à votre question. Je ne peux pas dire aujourd'hui qu'on aura du succès, étant donné que ça demande quand même des investissements dans le domaine du fisc pour permettre au service du fisc d'être à même de pouvoir collecter cet impôt-là. En ce qui concerne le moment, je crois que j'ai bien répondu à cette question. J'avais dit que le mois de janvier me paraissait, moi, assez sensible, socialement, et même politiquement, étant donné qu'on venait de sortir des élections. Et je pensais que si on pouvait le faire, soit au mois de mars, laissant passer un peu 3 mois, ce serait bien, les tensions seraient déjà, calmées pour le faire. Et la troisième question d'Alain n'est pas passée, je crois qu'il y avait un problème de...
Oui, de réseau. Alors Blaise de Kananga vous demande de parler, est-ce que il parle de la culture fiscale, non?
Mais la culture fiscale, c'est vraiment...
D'abord, il veut savoir c'est quoi la culture fiscale.
La culture fiscale, ce sont des prédispositions d'une population vis-à-vis du paiement des impôts, des prédispositions positives d'une population pour pouvoir payer les impôts. Par exemple, aujourd'hui, si vous allez aux États-Unis, tous les candidats députés, tous les candidats présidents doivent prouver qu'ils sont en règle avec les impôts. Et on a voulu faire ça ici chez nous, et j'étais particulièrement stupéfait de voir que les députés n'ont pas voulu inclure cette condition dans les conditions pour se porter candidat.
C'est-à-dire que cette culture n'est pas encore...
La culture fiscale
n'existe pas ici.
C'est ainsi que nous avons un budget ridicule. Nous sommes un pays de 70 millions, mais je crois que l'autre jour, je voyais un responsable du fisc faire une déclaration. Voilà, on a perçu 1 milliard de dollars. Mais en fait, on devait percevoir 10 milliards de dollars. Et cette régie financière devait percevoir 10 milliards de dollars par an. Mais dire qu'on a 1 milliard de dollars, qu'est-ce que le gouvernement peut faire avec un milliard de dollars. Donc, il n'y a pas de culture fiscale. La culture fiscale viendrait suite à beaucoup de choses. Ça viendrait, tout d'abord, il faut une organisation solide au niveau des services qui perçoivent l'impôt, une organisation solide pour éviter que certaines recettes ne puissent être détournées.
Mm-hmm.
Ensuite, la culture fiscale vient par des, si on précise par des exemples. C'est-à-dire que les impôts qui ont été payés par des gens ont servi à faire ceci et cela, à aménager des écoles, des hôpitaux, des
dispensaires.
Les gens voient que les impôts ont servi à quelque chose à ce moment-là. Ils seront motivés pour pouvoir s'impliquer dans cette...
Alors, Blaise, je vous pose encore une autre question. La différence entre contribuables et redevables?
Bon, j'ai cherché à donner ces différences. Il y a toujours dans les impôts indirects, et en ce qui concerne la TVA, nous sommes dans un impôt indirect, c'est-à-dire les impôts sur la consommation, ou bien sur les dépenses dans le marché. Il y a toujours deux personnes qui interviennent, c'est-à-dire le contribuable et le redevable. Le redevable, c'est la société qui a produit le bien qui est soumis à TVA, ou bien l'importateur. Lui, c'est le redevable. Il est obligé, il est redevable parce qu'il est obligé par la loi de collecter l'impôt. C'est un collecteur d'impôts. Collecter et le verser au fisc. Alors que le contribuable, en réalité, n'est pas visible. Le contribuable, c'est le consommateur.
Mm-hmm.
Il n'est pas visible, ce n'est pas lui qui va faire la déclaration au fisc, mais c'est lui qui a payé. C'est le consommateur, c'est la population, c'est le petit peuple, etc.
Alors, professeur, si, par exemple, un consommateur va acheter un produit, il remarque que le prix est exagéré, il y a peut-être double taxation, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il peut faire?
Bon, s'il y a double taxation, si le prix est exagéré, je crois que c'est une matière qui revient au ministère de l'économie nationale.
Où va-t-il se plaindre?
Généralement, dans notre pays, les prix sont élevés. Les prix sont élevés. Et j'ai eu quelqu'un dans mon bureau qui est arrivé il y a une semaine, il venait de Londres. Il était ici il y a 5 ans. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui a changé? Il dit, oui, je vois quelques changements, mais les prix restent très, très élevés dans votre pays. Et je crois que on devrait agir là-dessus pour arriver à des baisses de prix sans que nécessairement on puisse dire que c'est la faute de l'opérateur économique.
Alors, vous estimez que pour l'instant, à ce stade, on ne peut pas encore sanctionner les opérateurs économiques parce qu'ils ne maîtrisent pas encore très bien comment doit fonctionner cette taxe.
Je pense que c'est prématuré.
C'est prématuré. À quel moment peut-on commencer à sanctionner?
Bon, il ne faut pas non 6 mois. Il faut prendre même 6 mois, le temps de pouvoir faire la vulgarisation, le temps de pouvoir... Parce que quand même, dégager une valeur ajoutée, c'est un pas immense à faire pour les opérateurs économiques.
Mmh.
Il y en a qui, la plupart d'ailleurs, n'ont pas de comptabilité, n'ont pas de bilan, n'ont pas ceci, ils sont dans l'informel. Heureusement, tout ce monde qui sont dans l'informel ne sont pas des assujettis.
Mmh.
Mais... Bon, je crois que ce n'est pas le même mois qu'on a appliqué la chose qu'on peut commencer à sanctionner. Il faut prendre le temps de pouvoir s'expliquer, de comprendre ce que les gens font avant de passer à des sanctions. La CPM dont on a parlé ici, c'est la contribution personnelle minimum.
Oui.
C'est un impôt qui n'est pas un impôt sur la consommation. C'est un impôt sur les revenus, si on peut dire, qui remplacerait les impôts sur les rémunérations pour les gens qui ont des rémunérations assez structurées.
Mmh.
C'est un impôt qui est perçu auprès de petits peuples. Un parcours, comme on dit, du temps colonial, c'était un parcours. Chaque personne devait payer son parcours en achetant un timbre auprès de l'administration. Et je crois que cette peine n'est pas d'application dans notre pays pour le moment.
Bien, Mathias Bobo-Wakayembe, expert en droit fiscal, je vous remercie.
Merci beaucoup.